magazine des Nations Unies.
Bienvenue à cette nouvelle édition du magazine des Nations Unies. Tout de suite, le sommaire. Quel rôle joue concrètement la police de la MONUSCO? Réponse dans l'actualité de la semaine de cette émission avec le général Abdallah Wafi, le chef de cette force de la mission onusienne en RDC. Les agences des Nations Unies se mobilisent pour venir au secours à 15 000 réfugiés centrafricains à Mombayimbongo dans la province de l'Équateur. Une mission conjointe HCR, PAM, UNICEF évalue leurs besoins pour une intervention humanitaire d'urgence. Nous en parlerons avec notre invité. Il est l'administrateur régional des relations extérieures du Haut Commissariat pour les réfugiés. Enfin, avez-vous déjà entendu parler de l'agribusiness? Nous en parlons justement aujourd'hui dans notre émission. Ce concept et bien d'autres seront au centre de l'entretien qu'Honoré Missenga Kalala aura tout à l'heure dans Décryptage avec le chef des projets de l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel. Voilà tout pour les titres.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Le général Abdallah Wafi, chef de la police de la mission onusienne en RDC, a été l'invité spécial de la conférence de presse des Nations Unies mercredi dernier. Une occasion de parler également du rôle et des actions concrètes réalisées par la police de la MONUSCO. Les détails avec Honoré Missenga Kalala.
8 unités, 3 venant du Bangladesh, 2 de l'Inde, 2 également du Sénégal et 1 d'Égypte, cela pour un effectif total de 1400 éléments, limite autorisée par le Conseil de sécurité. Cela le format de la police des Nations Unies déployée en RDC, avec pour mission d'appuyer la police nationale congolaise, notamment dans la formation, la réforme, la logistique, les opérations de sécurité et la construction de bâtiments. Dans tous ces domaines, selon le général Wafi, il y a de quoi être fier du travail de la police de la MONUSCO.
Aller au centre d'instruction de Mugunga sur la route de Sake. Aucun centre n'a été construit depuis l'indépendance du pays jusqu'aujourd'hui. Il a coûté près de 3 millions de dollars. C'est pas une réalisation dont on peut être fier. Quand on a voulu former les éléments de la PNC à Goma, on était obligé de les transporter de Goma pour les amener à Kisangani. Aujourd'hui, grâce à ce centre, la PNC a un centre pour la province du Nord Kivu où ils peuvent former tous leurs éléments. Je trouve qu'il y a de quoi se vanter. C'est une belle réalisation.
Autre réalisation épinglée par le général, cette fois-ci sur le plan opérationnel. C'était lors du retour de la police nationale congolaise à Goma après le retrait du M23.
Je dis, je maintiens, je persiste. La CLJR n'a joué aucun rôle dans le déploiement de la PNC. C'est la police des Nations Unies, avec le général Charles Bisengimana, et je parle sous le contrôle du ministre de l'Intérieur, Richard Mouège, par le colonel Mamadou Gueffa ici, qui ont été voir Makenga pour mettre en place les arrangements sécuritaires pour déployer la PNC. Quand la PNC est arrivée à Goma, le M23 a dit qu'ils n'étaient pas au courant et qu'ils n'ont pas donné leur autorisation pour le faire. C'est nous qui les avons sécurisés, qui les avons pris en charge et nous avons fait les négociations pour permettre au M23 de se retirer et de déployer la PNC. Allez vous renseigner auprès de l'inspecteur professionnel de la PNC. Qui les a soutenus, qui les a aidés, qui les a protégés, qui les a déployés?
Côté formation, Florence Marchal, chargée de communication du PNUD du bureau RDC, ajoute aussi cette précision.
Dans la mesure où les formations qui sont assurées par la police des Nations Unies sont faites de façon conjointe avec d'autres entités des Nations Unies comme le PNUD, mais aussi l'UNOPS, j'ai un chiffre à vous donner. Sur le financement japonais, il y a 3425 policiers qui ont été formés depuis 2010.
Non, nous ne sommes pas en train de faire du triomphalisme. Nous sommes en train de faire un bilan, de dire ce qui a été fait, et par rapport à cela, les faits parlent d'eux-mêmes, a conclu le général Abdallah Wafi.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Dans son partenariat avec une dizaine de pays africains, dont la RDC, l'ONUDI, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, préconise une stratégie de développement basée sur l'agribusiness. Qu'implique ce concept? Philippe Francillon est le chef de projet de cette agence onusienne en RDC. Il est notre invité pour le décryptage. Il répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Philippe Francillon, bonjour.
Bonjour Honoré.
Qu'est-ce qu'on peut entendre par ce concept, l'agribusiness?
Traditionnellement, dans tous les projets de développement, on s'évertue, et c'est légitime, à développer la production agricole, soit par une augmentation des superficies, des moyens de mise en valeur, soit par l'amélioration des semences, par l'encadrement des paysans, par la structuration du milieu. Très peu de projets vont jusqu'à la transformation de ces produits agricoles et de les mettre à disposition des lieux de consommation. Donc l'agribusiness, c'est transformer ces produits de base, leur donner une valeur ajoutée et faire en sorte que le consommateur ait à disposition à la fois des produits sains et en quantité suffisante.
Oui, comment concrètement l'ONUDI s'implique dans cette politique ?
L'ONUDI, c'est sa vocation. Je rappelle que l'ONUDI, ça veut dire Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, au sens large. Et puis, dans cette agence d'exécution des Nations Unies, il y a différents départements, et entre autres, un département qui est spécialisé sur la problématique de la transformation agricole, et en particulier de la transformation agricole à destination alimentaire, par opposition à de la transformation agricole pour faire du savon ou pour faire des choses non liées à la consommation humaine. L'ONUDI développe des stratégies qui sont fonction, généralement, des politiques nationales, des concertations avec l'ensemble des bailleurs de fonds, avec les associations internationales des pays, et à partir de ça, propose des programmes d'action en rapport avec les objectifs fixés par les gouvernements.
Il y a un plan quinquennal qui lie la RDC à l'ONUDI depuis 2011. Quels sont les grands axes de ce plan et le parcours déjà réalisé ?
Alors, qu'on appelle le programme quinquennal, qui est le programme pays, il se situe dans le cadre d'accords internationaux et l'ONUDI a pour mandat de promouvoir le développement industriel durable et la coopération industrielle. Elle axe son action sur trois priorités thématiques. La première, c'est la réduction de la pauvreté grâce à des capacités productives. Le deuxième volet, c'est le renforcement des capacités commerciales. Et enfin, c'est l'environnement au sens énergie et environnement, climat des affaires, etc. Donc, voici les axes du programme pays et de ce plan quinquennal. Alors, sur l'aspect agro-industrie, nous nous sommes focalisés sur trois filières, le manioc, le palmier à huile et le bois. À l'heure actuelle, seule la composante manioc a démarré grâce à la participation financière du gouvernement du Japon. Je vous rappelle en passant que l'ONUDI est une agence d'exécution. Elle n'a pas de ressources propres pour financer les actions. Elle exécute et les financements doivent être trouvés soit par le gouvernement intéressé qui s'adresse aux bailleurs de fonds que sont l'Union européenne, la Banque mondiale, des coopérations bilatérales pour financer ces projets.
Pour le financement de ce plan quinquennal, quelle est la hauteur des fonds disponibles ?
Non, premièrement, il n'y a pas de fonds disponibles. Le plan a été chiffré aux environs de 12 250 000 $ dans ses différentes composantes. Ensuite, aux bailleurs de fonds à manifester leur intérêt pour telle ou telle rubrique de ce plan et le financer. C'est ainsi que, suite à une étude de l'ONUDI, dans les années 2009, sur la création de centres techniques de transformation agro-industrielle. Cette étude avait retenu trois zones dans lesquelles ça valait la peine d'implanter ce type de centre, au Kivu, à Lubumbashi et dans le Bas-Congo. Le gouvernement japonais, qui est très actif dans le Bas-Congo, qui a financé beaucoup de projets dans le Bas-Congo, a dit, écoutez, nous, ça nous intéresse de supporter le financement d'un centre technique dans le Bas-Congo.
C'est le centre de Kimpese.
C'est le centre de Kimpese que un bon nombre de des auditeurs connaissent sous le nom de CIVAC.
Donc, et après le projet de Kimpese, il y a d'autres, on a ciblé.
Tout à fait. Ce centre est un peu une vitrine, est un peu un élément de référence et qui fait que, aussi bien côté gouvernement que côté bailleur de fonds, il y a un engouement, il y a une volonté à reproduire ce type de programme. Et nous travaillons en ce moment en concertation avec la Banque mondiale, en particulier, qui a un grand projet qui s'appelle le corridor qui va de Boma à Kikwit, et dans lequel il est prévu que, en collaboration avec l'ONUDI, un, deux et peut-être plus centres techniques soient implantés. Alors, dans un premier temps, ce sera au Bas-Congo, donc avec deux axes qui ne sont pas encore totalement arrêtés par la Banque mondiale, donc il m'appartient pas de les dévoiler, mais en tout cas, ce sera un dans le bas-fleuve et un au niveau probablement d'Inkizi.
Monsieur Philippe Francion, merci.
Merci.
Les nouvelles en bref à présent. Encourager l'apprentissage de la lecture dans les petites classes, c'est le défi que voudrait relever le ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et professionnel, EPSP, avec l'appui de l'UNICEF. Raison pour laquelle un forum a été organisé à Kinshasa du 18 au 22 février. Rencontre qui a réuni une trentaine d'experts. Objectif, définir les standards de performance en lecture pour l'école primaire en RDC. Selon la norme internationale, un lecteur moyen doit pouvoir lire 60 mots en une minute. Situation humanitaire à Punia au Maniema, le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU s'inquiète de la forte militarisation de cette cité qui avait été occupée par les Raia Mutomboki. Et cela fait craindre d'autres exactions, freine aussi le retour de quelques 6000 ménages qui se sont réfugiés dans la forêt. Le chargé de l'information publique adjoint de Ocha a fait cette déclaration mercredi dernier à Kinshasa au cours de la conférence de presse hebdomadaire des Nations Unies. Selon Sylvestre Ntumba Mudingai, quelques ONG humanitaires ont été contraintes de relocaliser leur staff suite aux questions de protection qui se posent à Punia. Toujours à Punia, au Maniema, sachez que des milliers de déplacés ont reçu 20 tonnes de biscuits énergétiques et nutritifs. Cette assistance du PAM, Programme Alimentaire Mondial, a été transportée la semaine par avion à partir de Goma. Pour rappel, ces déplacés avaient fui les combats entre un groupe armé Maïmaï et des unités de l'armée nationale autour d'une zone minière dans l'ouest de la province du Nord Kivu.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Près de 15 000 réfugiés centrafricains ont traversé la frontière pour trouver asile dans la cité de Mobimbongo et ses environs dans la province de l'Équateur. Une mission conjointe HCR, PAM, UNICEF est à pied d'œuvre sur place pour les identifier et évaluer leurs besoins en vue de leur apporter une assistance humanitaire d'urgence. Simplice Panji est notre invité. Il est l'administrateur régional en charge des relations extérieures au HCR RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Coco à ce sujet.
Simplice Bandji, bonjour. Une mission conjointe ACR et PAM et UNICEF s'est rendue dernièrement à Mobimbongo, c'est à l'Équateur. On parle également d'un nouvel afflux de réfugiés centrafricains. Alors, première question, comment expliquer ce nouvel afflux alors que la paix semble revenue en Centrafrique avec l'accord de paix signé entre le gouvernement et les rebelles? Comment expliquer cet afflux?
D'abord, merci. Et permettez-moi, juste avant de répondre à la question, de faire peut-être l'historique depuis le début de la crise en Centrafrique.
Je vous en prie.
Alors, vous savez que la crise a commencé véritablement en décembre, quand les populations ont commencé à fuir donc la Centrafrique pour l'Équateur. Et entre le 3 et le 5 janvier, le HCR et le PAM et l'UNICEF ont effectué une première mission d'évaluation de la situation.
C'était quand?
C'était entre le 3 et le 5, du 3 au 5 janvier dernier.
Ok.
Et par après, le HCI est allé avec le partenaire gouvernemental et d'autres ONG entre le 11 et le 24. Nous avons donc mené une autre mission donc d'évaluation pour retrouver les personnes qui avaient fui et quitté, qui étaient réfugiées, n'est-ce pas, à Mobimbongo et dans presque toute la zone au niveau de l'Équateur, toute la zone frontalière. Alors, le HCR a identifié ces populations et environ 1185 personnes avaient pu bénéficier d'un support, d'une assistance en vivres et aussi des kits qui avaient été donnés par l'UNICEF. Alors, une autre mission donc est partie donc depuis hier le 14, une mission interagence encore, pour pouvoir, avec le nouvel afflux qui a commencé depuis le 7 février dernier, pour véritablement nous assurer de la présence, n'est-ce pas, des personnes qui sont là, les identifier, les enregistrer. Nous avons reçu plusieurs informations faisant état de ce que environ un peu plus de 12 000 personnes étaient nouvellement arrivées. Ils ne sont pas seulement au niveau de l'Équateur, mais ils sont aussi au niveau de la province orientale. Mais les chiffres ne sont pas définitifs, comme on le dit, c'est juste une estimation parce que les sources qui nous les rapportent, nous avons plusieurs sources, n'est-ce pas, qui rapportent ces informations. Mmh. On a la DGM au niveau de Mbaye Mbongo qui nous donne aussi des informations. Nous avons il y a la Caritas sur place et puis aussi il y a des membres de la société civile effectivement qui fournissent des informations. Tout cela reste à vérifier et c'est d'ailleurs pourquoi les collègues sont sur le terrain donc depuis hier pour pouvoir vérifier ces informations, enregistrer ces personnes et déterminer quels sont les réels besoins et comment est-ce qu'on peut, n'est-ce pas, organiser l'aide en leur faveur?
Oui, Simplice, revenons à la première question. Vous parlez d'un chiffre estimatif de 12 000 personnes. Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi cet afflux, ce nouvel afflux?
D'abord, selon les informations toujours que nous recueillons auprès des populations qui fuient, donc auprès des réfugiés, ils disent que les populations ont fui parce que, d'abord, il y a une partie d'elles qui fuient préventivement parce qu'il y a des menaces sur leur vie. Et puis, deuxièmement, elles disent qu'il y a des hommes armés qui sont venus piller leur village.
Des hommes armés, ce sont des rebelles?
L'information que nous avons, c'est que ce sont des hommes armés qui viennent et qui pillent leur maison, qui pillent les magasins et qui mettent en péril, n'est-ce pas, leur vie. Et c'est pour cela que ces personnes fuient.
Voilà. Et vous avez parlé des premières missions qui étaient des missions d'évaluation. Oui. Cette mission qui est partie hier, si vous l'avez dit, c'est aussi une mission d'évaluation. Quels sont jusque-là les besoins particuliers de ces réfugiés? Quel est l'état humanitaire actuel sur place?
Pour les premières informations, on nous signale d'abord la présence de nombreux enfants. On nous dit qu'il y a un peu plus de 5000 enfants qui sont...
On parle même de blessés.
En tout cas, selon les informations que nous avons dans un premier temps, on nous parle de 5000 enfants, environ 5000 enfants qui
sont... Non accompagnés.
En tout cas, on trouve pourquoi la mission qui s'est rendue, enfin, depuis donc hier, la mission interagence a pour rôle effectivement d'identifier ces personnes et de voir véritablement quelles sont les causes et quels sont les besoins dont elles font face, de sorte à pouvoir organiser l'assistance et la protection.
Qu'est-ce que le ACR, bien sûr avec les autres organisations, les agences des Nations Unies, qu'est-ce qu'elles vont faire sur place? Vous avez aussi une idée sur le besoin? Qu'est-ce que vous apportez concrètement?
D'abord, je voulais dire que la mission interagence qui est organisée, elle a commencé hier. Je vous ai parlé de la mission du 3 au 5 et la mission du 11 au 24 où nous avons vu les personnes, on leur a apporté une assistance. Mm-hmm. Et maintenant, nous avons une autre mission parce qu'il y a le nombre de réfugiés qui s'est accru. Mm-hmm. Et donc, il nous faut naturellement faire le point avec ce nouvel afflux et voir comment est-ce que nous allons nous organiser. Autrement dit, la mission qui est donc aujourd'hui sur le terrain s'emploie à recueillir les différents besoins des populations, à vérifier l'état dans lequel vivent ces populations et naturellement à organiser l'aide sur place. Donc avec le gouvernement congolais et avec les autres partenaires et les agences sœurs, nous sommes sur place pour pouvoir répondre aux besoins de ces populations qui sont.
Généralement, lorsqu'il y a des déplacements d'enfants, il y a aussi des femmes. Quel genre d'assistance l'ACR apportait-il?
Il y a ce qu'on appelle une assistance multisectorielle parce que vous imaginez aisément que ces populations, ces enfants, toutes les populations, n'est-ce pas, qui fuient, ont besoin d'assistance en vivre. Elles ont aussi besoin d'assistance en non-vivre parce que des fois, elles vivent dans des familles d'accueil ou qui sont pratiquement aussi démunies. Elles n'ont pas de couverture, elles n'ont pas, si vous voulez, des biens domestiques de première nécessité. Donc, c'est tout cela que le HCR, n'est-ce pas, apporte avec l'ensemble des autres partenaires humanitaires à ces différentes populations.
Après cette mission qui est partie, ça va faire encore combien de temps pour que le HCR revienne sur place et peut-être cette fois-ci avec beaucoup plus d'assistance humanitaire?
Mais je vous ai dit que l'assistance va s'organiser sur le terrain et c'est d'ailleurs pourquoi nous sommes là-bas.
Simplice Pangi, je rappelle que vous êtes administrateur régional chargé des relations extérieures ici au ACR RDC. Je vous remercie.
Notre nouvelle en province, signature lundi dernier à Guémena du pacte de non-agression par les communautés du territoire de Kungu, district de Sud-Ubangi, au nord-ouest de la province de l'Équateur. Cette cérémonie s'est déroulée sous la présidence du ministère de l'Intérieur du gouvernement central qui s'est rendu à Guémena pour l'occasion. La MONUSCO a été représentée par le représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies au Congo. La mission a apporté son appui logistique à cette cérémonie à laquelle ont participé plusieurs dignitaire du pays. Des précisions avec Régine Bokou-Mazango.
La signature de ces documents qui consacre en principe la fin des conflits interethniques qui opposaient les communautés du territoire des Kungu, notamment les ethnies Lobala, Boba, Bomboli, les Bomboma et les Monzombo. Par la signature de ces documents, les représentants s'engagent à enterrer la hache des guerres et ils mettent fin à la haine ethnique. Bref, aux mots qui ont causé la mort, la désolation et qui ont occasionné l'exil de leur communauté vers les pays voisins. Ce pacte a indiqué leur porte-parole, consacre non seulement la fin de la violence, mais aussi une ouverture au dialogue. Le ministre de l'Intérieur a appelé les communautés à bannir ce qui les divise. Richard Mouyege les exhorte à capitaliser plutôt ce qui les unit. Signalons que la cérémonie s'est déroulée devant quelques ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, des autorités provinciales et des districts du sud de Ubangi, ainsi que les responsables des agences des Nations Unies. Pour rappel, cette cérémonie fait suite au conflit autour des étangs poissonnés entre les Boba et les Lobala, qui a dégénéré en affrontement armé en 2009 et 2010. Gemena, Régine Bokou-Mazango, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Je réponds au nom de Richard Destin. Je suis marié et père de 3 enfants. Je suis marié au pays d'Haïti. J'ai une formation technique, c'est-à-dire dans la mécanique, l'électricité et la construction. Et c'est mon 2e tour à Kalemi. J'ai fait l'ouverture de la base de Kalemi en février 2001. Et j'ai passé 22 à 25 jours à travailler. Bon, et après, j'ai fait un accident. J'ai dû retourner sur Kinshasa. Et après, maintenant, là, on m'a déployé en janvier 2013 sur Kalemi à nouveau. J'ai la responsabilité des Power Unit. Power Unit, ça veut dire qu'il est composé de 3 unités techniques, cité, climatisation et la mécanique. De 2000 à aujourd'hui, là, ça fait dans les 13 ans. Aux Nations Unies, on ne s'arrête pas de travail, il y a toujours du boulot. Ça veut dire qu'on est toujours sur la balle pour les techniciens. Vous travaillez la journée et puis la nuit. Quand vous avez un problème, c'est un challenge pendant la journée. Ça veut dire qu'il faut réfléchir à ne pas dormir, à étudier à nouveau, à faire des recherches pour chercher une solution au matin. J'ai travaillé dans des entreprises d'automobiles chez moi et à la construction. J'ai passé un temps à New York où j'ai travaillé aussi. Et puis finalement, j'ai commencé avec l'ONU chez moi à la première mission. C'était par le canal dynamique et j'avais l'habitude de travailler pour lui. Bon, il me trouve excellent. Bon, un jour, je lui demande, est-ce que je peux avoir un boulot? Il pense que je blague, il dit, oui, bon, vous pouvez avoir un boulot. Je n'avais pas intéressé vraiment. Après, il m'a dit, bon, je trouve quelque chose pour vous. J'ai fait mon application pour la climatisation et l'électricité. Il m'a dit, j'ai un poste dans la mécanique. Bon, j'avais refusé et puis finalement, il m'a tiré par les oreilles. J'ai accepté depuis lors de 1995 à 2000, de 2000, on m'a envoyé ici au Congo où je suis encore là. La première expérience, j'ai commencé à travailler dans la communication. De la communication, on m'a envoyé au niveau de la construction où je suis jusqu'à présent. C'était presque dans les mêmes champs, l'électricité et la mécanique. Après un certain temps, on m'a changé de section pour continuer et au niveau de l'électricité et de la mécanique toujours, au niveau d'ingénierie. Mon temps libre, ça, j'ai pas vraiment eu un temps libre parce que je suis quelqu'un qui me consacre toujours dans les activités du travail. J'ai fait d'autres recherches, surtout j'ai une idée dans la protection de l'environnement. J'ai fait des recherches. Mon temps libre, vraiment, c'est les bureaux, la maison et puis mes recherches. Quand j'ai pas un congé chez moi, j'ai bossé très dur parce que je laisse le pays pendant 6 mois où je dois vraiment continuer par travailler encore. Il y a d'autres choses que la mission lui-même commence par implémenter sur d'autres systèmes alternatifs de production de l'électricité et la protection de l'environnement parce que c'est l'une des choses que l'ONU tient à cœur de nos jours. En gros, je suis l'homme qui n'a pas vraiment une grande préférence. Ça veut dire que j'ai trop de concentration sur le travail et puis j'ai un challenge, j'ai quelque chose d'autre que je voulais implémenter. C'est surtout dans la protection de l'environnement. parce que je prends la protection de l'environnement comme mon cheval de bataille, parce que le livre de Genèse, Dieu nous a donné quelque chose de protéger notre environnement, de ne pas détruire. Cela veut dire ce que je voulais faire maintenant à travers les églises, à travers les sectes, c'est de travailler à la protection de l'environnement, parce que c'était un travail que Dieu nous avait donné. On ne prêche pas seulement le ciel, mais on prêche la terre aussi. Je lisais quelque part, on dit, quelqu'un qui est l'ami de Dieu, il ne peut pas détruire son environnement. Pécher contre la création de Dieu, c'est pécher contre Dieu. De nos jours, les problèmes environnementaux, ça devient une casquette chinoise en ce sens. Les gens n'arrivent pas à gérer ce qu'ils produisent, les immondices sont partout, la destruction, couper les arbres, les gens ne respectent pas l'environnement et la nature. Je demande un respect à la protection de l'environnement et de la nature.
Magazine des Nations Unies. Question aux Nations Unies.
Je suis Patricia Maboti, stagiaire dans une station de radio. Ma question est celle-ci. La région de Mobaï Mbongo, à l'Équateur, reçoit depuis le mois de décembre dernier un afflux important de réfugiés centrafricains, estimé à 1500 personnes. Parmi ces réfugiés, il y aurait même des enfants non accompagnés et des blessés. Que fait l'EPAM pour apporter assistance à ces personnes démunies?
Claude Kalinga, vous êtes chargé de communication au PAM RDC. Vous venez de suivre la question de Patricia. Que lui répondez-vous?
Bon, merci de la question de l'auditrice. Premièrement, je voudrais juste corriger une chose. Donc, il est estimé à ce jour à environ 15 000 personnes et non 1 500 personnes qui auraient traversé la frontière pour trouver refuge dans la province de l'Équateur. Et le PAM, en ce moment, est en pleine mission d'évaluation avec d'autres partenaires, d'autres agences, et ils sont présentement dans Agbadolité. Donc, ils sont en train de mener une évaluation à l'issue de laquelle on va déterminer exactement les modalités d'une intervention en faveur de ces personnes, disons, de ces réfugiés. Et ici, à Kinshasa, le PAM est également en concertation avec le HCR notamment et la Commission nationale des réfugiés. Ils ont pour étudier tous les mécanismes, toutes les modalités pour venir au secours de ces personnes qui sont dans le besoin. Bon, le PAM distribue exclusivement des vivres, mais d'autres partenaires distribue des biens non alimentaires. L'intervention aura lieu le plus tôt possible après disons la mission qui est sur le terrain pour évaluer le besoin. Donc on va cibler les personnes qui sont les plus nécessiteuses, disons le plus vulnérables. C'est à ces personnes que nous allons venir au secours. Le temps presse et le besoin sont urgents, c'est vrai, mais je crois que dans le meilleur délai cette semaine, je crois que tout sera bouclé. Et vraisemblablement, la semaine prochaine, le PAM et ses partenaires et d'autres agences vont devoir intervenir le plus rapidement. Bon, le PAM, généralement, donne des vivres aux familles. Donc, on regroupe des bénéficiaires par famille. Et si une personne seule, est considérée comme famille, tant mieux. Mais c'est en famille que l'on donne des vivres. Donc, il y a une ration alimentaire donnée à chaque famille, donc à chaque famille bénéficiaire. Bon, les enfants non accompagnés, bien entendu, seront également pris en charge et nous allons évaluer pour voir ce que la mission d'évaluation qui est sur le terrain va nous donner comme résultat et par rapport à cela, nous allons devoir agir.
Merci Claude Kalinga.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Retenez ce grand rendez-vous dans votre agenda et cela concerne Radio Kapi. Ce média totalise demain, lundi 25 février, 11 ans d'existence. Le magazine des Nations Unies consacre non seulement l'entretien que lui a accordé l'un des pionniers de cette radio, le porte-parole de la MONUSCO, Manoj Mounoubaï, mais il se propose également, ce magazine, d'assurer la couverture des activités qui seront organisées autour de cet événement. C'est la fin de ce numéro du magazine des Nations Unies. Toute l'équipe vous remercie de nous avoir suivis. Il s'agit de Mila Kimbouni à la présentation, Guy Manzamou du côté de la technique, Nicole Ngaka a supervisé ce magazine et Jean-Pierre Elali Coco l'a coordonné. Honoré Missenga était au reportage. Vous pouvez réécouter ce numéro du Mag UN à 19h03 heure de Kinshasa, à 20h03 si vous êtes à Lubumbashi dans la province du Katanga. Vous pouvez également nous suivre via internet sur www.radiokapi.net. Envoyez-nous vos suggestions, vos questions ou vos remarques en postant un commentaire en dessous de l'émission si vous nous suivez à partir du site internet de Radio Kapi, ou carrément appelez-nous au 082 30 76 630. Bon dimanche à tous.